9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Julien Clerc.
Oui, bonjour.
Vous avez mis votre casque, il valait mieux mettre le masque. Mais c'est pas grave. Attention, on est filmé. Europe1.fr, vous pouvez voir Julien Clerc.
D'accord.
Plaisir de vous recevoir ici et maintenant. Vous avez sorti le mois dernier votre 26e album. Album qui s'est tout de suite classé dès la première semaine, numéro 1 des ventes.
Oui. Écoutez, j'étais très heureux parce que ça ne m'était pas arrivé depuis 2008, je crois.
Voilà. Mais quelle carrière. Très joli titre à cet album, Terrien. Pas comme quelqu'un qui ne serait rien, mais c'est en deux mots, évidemment, il y a un jeu de mots. Un terrien, un habitant de la Terre. On va entendre quelques mesures de la chanson qui donne justement le titre à cet album, Terrien.
À quoi ça sert, à quoi ça tient, entre grands routes et bouts de chemin, la grandeur, les peurs, la riposte, soumis à la loi du compost. C'est comme un rêve dans un rêve, une vie de pourquoi, de comment. Tu es d'un terrien, la relève, tu es d'un terrien, le parent. Tu ne seras pas venu pour rien, si tu deviens tout pour quelqu'un. Tu ne seras pas venu pour rien.
Alors je vais vous dire, j'aurais jamais pensé qu'on puisse faire rimer riposte avec la loi du compost.
Ah oui, c'est bien
qui est,
ça.
Ouais, ça m'a vraiment frappé. Qui est Bruno Guglielmi?
Mais Bruno Guglielmi commence à avoir une place de plus en plus importante là, dans les auteurs de la chanson française aujourd'hui. Moi, c'est notre troisième collaboration. Sur le dernier album, il y avait déjà deux chansons. Il y a beaucoup de chansons sur le dernier album de Calogero. Ouais. Il commence. C'est un ami de. En fait, Bruno, c'est un ami du fils de Maxime Le Forestier. Il m'a été présenté par Le Forestier. Mmh. Et c'est un très 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 bon auteur de chansons. Il est lui-même auteur-compositeur, mais là il commence vraiment à faire parler de lui.
Et on voit que ce que vous aimez, c'est ce qui sort des sentiers battus, c'est le pas de côté et pas les rimes automatiques, amour et toujours.
Bah, oui. Hein, bien sûr, non. Ça fait un petit bout de temps.
J'ai bien compris. C'était un compliment, ne le prenez pas mal. Il y a également des gens comme auteurs avec qui vous avez l'habitude de travailler, vos amis Carla Bruni, Didier Barbe-Olivien, mais également des petits nouveaux, Clara Luciani pour Mon Refuge, oui. Qu'on va entendre tout à l'heure en live.
Oui. Elle a écrit deux chansons, Clara. Ouais. Oui, elle a ça et une autre qui s'appelle L'homme à nager, qui est aussi une inspiration très originale.
Il y a également le rappeur Vincha, Jeanne Chéral, Lavillier. Est-ce que c'est facile de les convaincre? Est-ce qu'il suffit de les appeler et dire « Salut, c'est Julien Clerc »
Oui, c'est à peu près ça. Moi, je demande des textes. Voilà, je les appelle ou je les rencontre. Comme ça, voilà, et puis je leur dis « Est-ce que tu n'as pas envie de m'écrire un texte ?»
Point. Ou est-ce que tu n'as pas envie de m'écrire un texte sur tel thème quel genre? Ou au moins, voilà ce dont je ne veux pas.
Point.
Rien d'autre.
Lavillier m'a dit « Tu voudrais quoi ?» Je lui ai dit, écoute, pas une chanson d'amour, sans doute. Ouais. Me disant, Bernard Lavillier, eh ben, il m'a envoyé une chanson d'amour.
Ah mince.
Mais très bien.
Par contre.
C'est, elle est très belle.
Et est-ce qu'on peut faire retoucher les chansons après?
Bien sûr.
Parce qu'il est baraqué, Lavillier.
Ah oui, non mais franchement...
Non, je plaisante. Qu'on peut leur dire, avec l'histoire qui est la leur, la carrière qui est la leur, le talent qui sont les leurs, on va dire, ce couplet, je l'aime pas, etc. Oui, ou est-ce que quand on l'a, on touche plus?
Vous savez... Tous les grands sont humbles. Hein. Donc, je leur dis tel mot, ou tel, peut-être telle tournure de phrase. Ou tel, voilà. Enfin, ça fait partie de la règle du jeu, je crois, entre tous les gens qui écrivent des chansons.
La chanson Mademoiselle, c'est un hommage aux enseignants garants des valeurs républicaines. Chanson prémonitoire. Pourquoi j'en parle? Parce qu'elle a été écrite bien avant l'assassinat, avant la décapitation de Samuel Paty.
Oui, c'est une chanson sur nos je dis nos institutrices, parce que Didier est de ma génération, ça ressemble la chanson tout à fait aux institutrices que nous autres avons eues. J'espère que les institutrices aujourd'hui peuvent encore apprendre ce que sont que les grandes cités industrielles et les montagnes éternelles, Victor Hugo et Paul Verlaine.
Il y a des chansons avec des sujets pas faciles, des sujets de société, même des sujets plus graves, comme le titre que vous avez écrit Jeanne Chéral, La jeune fille en feu, où il est question d'agression sexuelle. Vous avez écrit la musique après, c'est quoi l'histoire de cette chanson?
Sur le texte. j'ai reçu le texte. Et évidemment, j'ai été tout de suite bouleversé par le texte et la musique du refrain. J'ai commencé par le refrain, en fait. Et puis après, j'ai écrit le couplet après. Et la musique du refrain m'est venue tout de suite. J'étais très heureux de recevoir ce texte parce que c'est un texte qui traite d'un sujet grave. Et malgré tout, nous ne sommes pas des hommes politiques, nous sommes des chanteurs populaires. Donc il faut arriver à traiter un sujet grave, mais tout en restant une chanson populaire. Voilà, j'ai trouvé que Jeanne avait fait un magnifique travail d'auteur, là, poétique.
Vous restez avec nous, Julien Clerc. On va parler encore de beaucoup d'autres chansons et la manière dont vous avez fait cet album, parce que vous avez squatté chez les beaux-parents, je ne savais même pas que c'était possible quand on est quelqu'un comme Julien Clerc. On va faire votre portrait en musique. C'est Damien Cabrespine qui arrive dans Culture Média. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Toujours en compagnie de Julien Clerc qui se réjouit des bons scores et du succès de cet album, son 26e Terrien. Puis on parlera tout à l'heure de la tournée, parce qu'il y a quand même des tournées qui se précisent. Et Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, était ce matin, et ce matin à 11h, chez Jean Castex pour parler de bonnes nouvelles pour le monde de
mais
la culture et du spectacle.
C'est formidable, c'est surtout de ce dont j'ai entendu parler, je ne suis pas très au courant, mais c'est ces concerts tests.
Exactement.
C'est formidable, voilà. Ça.
Tout le monde va vouloir tester. Tous les chanteurs vont vouloir faire les tests.
Non, mais c'est formidable. Personnellement, mais je sais combien c'est difficile. Pour les gouvernements de tous nos pays, d'ailleurs, de tous les pays qui nous environnent aussi, c'est pas simplement chez nous, combien c'est difficile de traiter cette pandémie, ils sont là, ils avancent comme ça, à vue, ils parlent les coups, bon, je comprends très très bien. Mais, je veux dire, il est vrai que quand j'ai entendu dire qu'on pouvait prendre l'avion, on était serré comme je sais pas quoi, et qu'on pouvait pas aller en concert, ça m'a étonné, voilà.
On est tous d'accord. Je vous présente Damien Cabrespine. Bonjour.
Bonjour Philippe. Bonjour
Damien, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Média. Et ce matin, une fois n'est pas coutume, c'est vous qui brossez le portrait de notre invité, Julien Clerc. C'est ce qu'on appelle un exercice d'admiration pour ce chanteur élégant pour le moins, Damien.
Oui, tout en élégance, cher Julien Clerc, car vos chansons sont pour moi des instants courtois, des moments galants, des cadeaux auditifs, emplis de joliesse et de sagacité.
Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît.
Vous êtes un cajoleur charmeur, un esthète de la tendresse. Vos refrains sont des déclarations d'amour ou d'amitié. Vos mélodies sont des abris qui réchauffent les cœurs et nous donnent envie de croire en un monde meilleur.
Fais-moi une place au fond de ton cœur.
Hippie déluré dans la comédie musicale Air, chanteur de charme sous Pompidou et Giscard, cœur de rocker, superstar ou chanteur utile dans des moments tragiques, votre œuvre accompagne nos vies depuis plus de 50 ans.
À quoi sert une chanson si elle est désarmée ?
Mais cette séduction, elle est toujours matinée de clairvoyance, car en effet, l'air de rien, en vous écoutant, on prend le pouls de notre pays. On ressent ses espoirs, ses joies, sa légèreté, mais aussi de temps à autre son désarroi. Vous êtes devenu une figure intergénérationnelle, un cupidon aimable, un artiste rassurant, à l'œil canaille et au sourire désarmant, mais qui peut aussi parfois taper du poing sur la table.
Qu'on me pardonne, mais on ne peut certains jours écrire des chansons d'amour.
Dans L'Assassin assassiné, un titre sorti en 1980, vous preniez position contre la peine de mort, bien avant que la loi Badinter ne soit votée. Vous, le chanteur romantique, vous, le fiancé idéal, deveniez alors militant à travers les mots de Jean-Loup Dabadie.
Messieurs les assassins, commence, oui, mais la société recommence.
Mais si la colère est un sentiment qui ne vous est pas étranger, il faut bien l'avouer, Julien, votre truc à vous, c'est quand même l'amour. Vous carburez à la passion, vous vibrez dans l'affect et vous perdez totalement pied face à la beauté féminine.
Je vous aime.
Mélodiste hors pair et vibrato serré, vos chansons nous accrochent dès la première écoute. Vous avez un style, une marque de fabrique que vous faites évoluer au fil des ans. Votre œuvre est une variation autour du même thème. T'AIME, pour paraphraser votre ami Serge Gainsbourg.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien.
On retrouve dans vos chansons un soupçon de jazz, de rock ou de rythmes tropicaux. Vous avez travaillé avec la fine fleur de la nouvelle scène française, Carla Bruni, Alex Baupin, Julien Doré, Clara Luciani ou encore Vianney. Et votre collaboration artistique et volcanique avec Étienne Rodagil a marqué l'histoire de la chanson francophone.
Si on chantait, si on chantait.
Alors aujourd'hui, vos titres sont devenus des classiques, vous avez signé des tubes intemporels, vous semblez creuser un sillon sans vous disperser. Votre musique continue de nous bercer et de nous enchanter. Alors pour tout ça, Julien Clerc, eh bien j'ai juste envie de vous dire un mot. C'est un mot très court, c'est un mot en 5 lettres. C'est tout simplement merci.
Emmène-moi.
Et vous nous avez emmené, on reconnaît la chanson Le Refuge, Julien Clerc. Merci, moi aussi je dis 5 lettres à Damien Carmassi, une réaction.
Ah bah écoutez, non bah c'est très gentil d'avoir dit tout ça, mais c'est, écoutez, je pense que tout ça c'est sous-tendu par l'amour de la musique, évidemment, tous ces auteurs différents, tous ces sujets différents, ça vient de deux choses, d'abord d'un goût que j'ai pour la musique, un goût très varié, je sais bien que le mot variété n'est pas toujours bien porté, mais j'ai une vraie variété dans mes goûts, et je pense que ça se retrouve dans mes compositions, j'ai la chance d'avoir été attrapé par la musique assez jeune, comme ça, et d'avoir pu en faire mon métier, surtout. C'est ça, la plus grande chance, dont j'essaye de ne pas gâcher ça. Et puis, comme je prends beaucoup de plaisir à chanter, je me dis, chantons le plus longtemps possible.
On est bien d'accord. Merci beaucoup, Damien Cabrestine. Je précise qu'on salue évidemment Hélène Manarino, qu'on retrouve demain, dans un instant, notre premier indispensable. On va parler livre avec Nicolas Caro, qui va nous faire découvrir le nouveau roman très attendu de Delphine de Vigan. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Julien Clerc, très joli titre à ce nouvel album, Terrien, comme un habitant de la Terre, comme un terrien lui-même. On parlait de vos auteurs, on parlait de la musique, Julien Clerc. Autre chanson totalement centrée sur vous, puisqu'elle s'appelle Ma Petite Terre. Ça raconte vos racines guadeloupéennes.
C'est un texte de Marc Lavoine.
C'est ce que j'allais dire, c'est ça qui est surprenant. C'est lui qui a écrit sur votre enfance à vous et sur votre grand-père antillais. Ouais. C'était une demande, c'était lui s'intéressait à vous-même. Oui. Comment ça s'est fait cette histoire?
Écoutez, vous savez, on a fait une longue interview avec Marc, qui était sur une radio il y a quelques années, où il avait une émission qui était très bien d'ailleurs, où il faisait des grandes interviews de fond. Je suppose que c'est à la suite de ces interviews, et puis aussi c'est quelque chose sur un plan personnel qui le touche beaucoup, les Antilles, pour des raisons personnelles. Donc il aime bien creuser ce sillon-là. Déjà sur le dernier album, il y avait une chanson sur Aimé Césaire, et là il a recommencé avec bonheur, je trouve.
Et ça raconte aussi votre enfance, qu'il y a peu de gens qui savent que vous avez une enfance particulière, double culture, vous dites avoir deux mamans bien avant le mariage pour tous.
Ah oui.
En quoi ça a changé votre vision du monde?
J'ai deux mamans parce que mon père a eu des enfants avec deux personnes, mais c'est vrai que ces deux femmes... C'était le mélange d'être... que mes parents se séparent extrêmement jeunes, que je sois confié à mon père, ce qui était absolument rarissime à l'époque, ce qu'il est encore aujourd'hui. Et donc, j'ai été élevé par ma belle-mère, et puis je voyais ma mère pendant les week-ends. Or, il se trouve que c'était deux milieux sociaux complètement différents, ce qui, là aussi, est encore rare, après tout, aujourd'hui. Puisque mon père, si on veut faire court, avait épousé la fille de la femme de ménage de son propre père. Donc, il y avait deux milieux musicaux. Il y avait un côté la musique classique, de l'autre côté le jazz et la chanson, deux milieux politiques, il y avait d'un côté le gaullisme, d'un côté le communisme. Donc j'ai été baladé très très jeune entre ces deux milieux, ce qui m'a donné, je pense, une certaine ouverture d'esprit et une grande méfiance vis-à-vis des engagements politiques.
Et justement, on va parler de l'enfance avec vous, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Et là, vous avez du lourd entre les mains. C'est le nouveau roman très attendu de Delphine de Vigan. Vous allez comprendre le sens du début de cette interview avec Julien Clerc. C'est chez Gallimard et ça s'appelle Les enfants sont rois.
Oui, alors Les enfants sont rois, c'est pas un manuel d'éducation, bien entendu. C'est l'inverse d'une certaine manière, c'est l'anti-manuel. Nous sommes à Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine. Kimi Dior, avec un E muet à la fin de Dior, 6 ans, joue à cache-cache avec les copains du quartier et son frère Samy. Samy, justement, qui vient de compter jusqu'à 300 et « Attention, j'arrive !» Il cherche et il trouve tout le monde assez vite. Mais pas de Kimi. C'est étrange parce qu'elle est vraiment nulle au cache-cache, Kimi. Au bout d'un moment, panique, police, média, Kimi a été enlevée. Or, Kimi, malgré son jeune âge, est une célébrité. Elle est la star de la chaîne YouTube Happy Récré. Elle et son frère ouvrent des cadeaux, testent des bonbons devant la caméra. C'est leur mère, Mélanie Clot, qui filme. Ça rapporte beaucoup d'argent, 1 million par an.
Et donc, c'est un kidnapping contre rançon?
Sans doute, mais on ne sait pas pour l'instant. Sauf que Mélanie, la mère, reçoit un message sur son compte Instagram. « Enfant enlevé ». Deal à suivre. Je vous laisse découvrir par vous-même la suite, mais c'est d'abord un livre sur le spectacle de soi-même. D'ailleurs, le roman s'ouvre sur la finale de Loft Story. On suit les lofteurs qui sortent donc du loft. Ouais. 20 ans plus tard, ce n'est plus la télé-réalité, mais le YouTube réalité, ces familles, vous savez, qui se filment avec des enfants qui découvrent des cadeaux, qui font tout un tas de sketchs avec beaucoup de rire, de joie et tout ça. Eh bien, ce livre parle aussi de ça, et Delphine de Vigan a dû explorer ce monde qu'elle ne connaissait pas.
Je me suis renseignée, je me suis immergée dans cet univers des enfants influenceurs, dans cet univers de YouTube. Effectivement, à la fois avec des familles, des vidéos étrangères, américaines, anglaises, allemandes, italiennes, ça existe partout. Et ça, effectivement, il y a aussi des familles françaises. Voilà, j'ai découvert avec stupeur et stupéfaction cet univers. Et on entend très bien, voilà, cette joie comme ça affichée, contrefaite par les enfants. Ces vidéos d'unboxing essentiellement, puisque c'est le cœur un peu de l'activité, c'est déballer des cadeaux, découvrir des jouets, des produits, des marques devant la caméra. C'est là tout le paradoxe au fond de ces vidéos et de cette activité, c'est qu'à la fois elles génèrent des millions de vues et des millions d'euros, et en même temps, la plupart des gens à qui vous en parlez ignorent l'existence de ces vidéos.
Et des enfants plus ou moins exploités.
Éventuellement. En tout cas, la question de savoir si être vu par des millions de gens quand on est un gamin, ça peut avoir des impacts psychiques. D'ailleurs, il est question à un moment donné dans le livre du syndrome du Truman Show.
Le film avec Jim Carrey ?
Oui, la télé-réalité ultime, un homme filmé depuis sa naissance qui ignore qu'il est filmé. Bref, je fais attention parce qu'il ne faut surtout pas dévoiler toutes les fausses pistes sur lesquelles Delphine de Vigan nous lance, parce que c'est aussi un polar, mais pas que.
C'est avant tout un livre sur l'époque, je crois. Enfin, telle était mon intention de départ, à la fois sur l'époque, à la fois sur ce qui se joue parfois à l'intérieur des familles, qui est invisible à l'œil nu. Mais en même temps, depuis longtemps, j'aime bien cette idée de flirter avec le genre. Je l'ai fait déjà par le passé avec le thriller psychologique, dans D'après une histoire vraie. Je l'ai fait avec le théâtre, dans Les Gratitudes. Et là, oui, ça m'amusait de flirter un peu avec le polar, malgré tout, de jouer le jeu, d'en adopter les codes. Mais après, à un moment donné, de les désamorcer. Alors, peut-être parce qu'au fond, je me dis, mais non, je ne suis pas capable d'écrire un vrai polar. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir, en tout cas, à m'immerger un peu dans ces codes et dans cette littérature pour tendre dramatiquement le roman.
Pour tendre, dit-elle, et on est tendu.
Ah bah c'est efficace, c'est sûr, vraiment bien construit. On veut savoir, on pourrait savoir d'ailleurs. On a les moyens de se douter de la résolution, mais moi, en tout cas, je me suis fait avoir. Je dis plus rien. Et puis donc, l'intérêt, c'est pas seulement l'intrigue, le suspense, c'est l'exploration de ce monde étrange, de cette nouvelle société du spectacle, un peu malsaine aussi, un peu folle quand même parfois.
Non, c'est tentant, Julien Clerc. Est-ce que vous partagez mon enthousiasme à ce récit de Nicolas Caro ?
Oui, tout à fait. Ça donne tout à fait envie de le lire.
Ouais, et d'ouvrir des boîtes et de se faire filmer, mais pas du tout. Les enfants sont rois, donc Delphine de Vigan. Merci beaucoup Nicolas Caro. Dans un instant, on va parler d'art. C'est notre deuxième indispensable avec Luce Bernard, qui est déjà dans ce studio. Mais d'abord, musique avec le cadeau que nous fait notre invité Julien Clerc. Je vous en parlais, c'est le live de Mon Refuge.
Emmène-moi loin de cette ville que je connais par cœur. Emmène-moi en plein hiver dans le port de Honfleur. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi voir le Japon, ses cerisiers en fleurs. Emmène-moi écouter les sirènes, envoûter les pêcheurs. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi, embrasse-moi à l'ombre des pommiers. Ce sera dimanche tous les jours de l'année. Et emmène-moi dans des forêts sombres où nous nous perdrons. Emmène-moi voir les pyramides, saluer les pharaons. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi, embrasse-moi à l'ombre des pommiers. Ce sera dimanche tous les jours de l'année. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Oh, faut dire qu'avant toi, jamais je n'ai eu de maison. Oui, tu seras mon refuge où que nous allions. Allez, emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi.
Mon refuge, clavier, guitare, voix, Julien Clerc, notre invité sur Europe 1. Merci beaucoup pour ce cadeau. Dans un instant, notre deuxième indispensable avec Luce Bernard qui va nous donner sa solution pour avoir l'impression d'être au musée.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Julien Clerc qui n'était pas mécontent du son de ce
non,
live
oui,
sur Europe 1.
Oui, ça va, ça allait. Voilà. Et votre...
L'ingénieur du son.
Il est bon, votre ingénieur du son.
Merci beaucoup. Il nous écoute et on lui dira s'il ne nous écoute pas, mais je pense qu'il nous écoute. Et sinon, il l'entendra aussi en replay. C'est Julien Or. Luce Bernard, rebonjour.
Rebonjour.
Les musées sont toujours fermés.
Mais
alors,
oui.
Vous continuez de nous proposer des alternatives. Et cette semaine, c'est une série d'Arte, des pastilles intitulées « Amusez-vous », jeu de mots, « Amusez-moi ».
Oui, et c'est un vrai petit bijou. Hein. Ce sont des vidéos de 2-3 minutes qui donnent vie à un tableau. Je vous donne un exemple, comme ça vous allez tout de suite comprendre. A priori, vous voyez à quoi ressemble la Joconde.
Du tout.
Et bien, l'épisode commence sur un plan large de la toile, exposé dans sa salle au Louvre. On croit être au musée, face au tableau, mais d'un coup, la Joconde cligne des yeux, elle a la mâchoire qui s'agite, elle s'anime, et ce n'est pas trafiqué à l'ordinateur, c'est en fait une comédienne. Et on est tout de suite bluffé par sa ressemblance et par la perfection de la copie du costume et du décor du tableau d'origine. Mais Mona Lisa parle et Mona Lisa est en fait assez exécrable. Bah oui, c'est la star des musées. On la voit prendre son téléphone pour appeler son agent, Dominique Besnéard, pour se plaindre.
Salut ma chérie, alors quoi de neuf?
Bah tu sais bien, j'en peux plus de sourire toute la journée comme une idiote. Tout juste si je fais pas gnignignigni, j'ai l'impression d'être devenue une peluche géante à Disneyland.
T'exagères, tout le monde aimerait être à ta place au Louvre, 20 000 visiteurs par jour.
Et peut-être, mais je fais ça depuis 1503, t'imagines? J'ai la mâchoire déglinguée le soir, je te raconte même pas. En plus, je peux me confier à personne comme je suis toute seule dans mon tableau.
Voilà, il existe une 60aine de vidéos comme ça, des tableaux plus ou moins connus, mais tous très réussis. Mention spéciale d'ailleurs au tableau d'Edward Hopper, Summer Evening. À chaque fois, l'effet est saisissant, difficile d'ailleurs de vous le retranscrire totalement à la radio. C'est les mêmes ingrédients, hein. Humour, anachronisme, des problèmes ou des situations de notre quotidien. Les Marilyn de Warhol se retrouvent candidates d'un quiz télévisé. Renoir reçoit des mails. Albrecht Dürer voudrait bien du chauffage, mais le musée est éco-responsable. C'est une recette gagnante pour rendre l'art plus accessible, hein, comme à chaque fois dans ces web-séries. C'est pour rendre ça accessible à tout public. C'est ce que voulait Fouzia Keshkesh, qui est une productrice passionnée.
C'est vraiment comment on aimerait voir un tableau, c'est-à-dire vivant. Que ce tableau nous parle, que ce tableau nous raconte des histoires. C'est de rendre quelque chose qui peut nous paraître poussiéreux dans la narration et de le rendre vraiment ancré dans notre quotidien. Et je pense que c'est ce qui fait aussi le succès d'Amusez-vous, c'est que les personnages sont ancrés dans la réalité, dans le quotidien de tout le monde, de tous les Français. Et ça les rend plus humains et donc plus accessibles.
Et j'ai vu les images et je confirme ce que vous dites, c'est saisissant, voire parfois somptueux. Mais comment ils font pour animer les tableaux?
Alors j'ai eu la chance d'aller sur le tournage de la nouvelle saison qui devrait sortir en septembre sur Arte, donc je peux vous dévoiler quelques petits secrets. En fait, l'élément indispensable, c'est la précision. Déjà, les comédiens, je vous le disais, sont d'une ressemblance incroyable avec le tableau d'origine. Il y a plusieurs mois de casting pour chaque saison. Les costumes sont parfois faits sur mesure. Le coiffeur veille à la moindre mèche rebelle. C'est un peu le jeu des 7 erreurs avec le tableau d'origine. Ils se réfèrent à ce tableau constamment. Les comédiens
comédiens commencent toujours leur sketch en prenant la pose exacte du tableau d'origine pour que l'illusion soit parfaite au début des épisodes. Ils sont guidés par le réalisateur. Alors vas-y, avance un peu ta tête, à gauche, à droite, ton bras. Et pour les décors, ça dépend des tableaux. Parfois, il y a recours à un fond vert, il y a beaucoup de post-production, parfois pas du tout. En tout cas, c'est un gros travail, un an et demi par saison environ.
Un an et demi, non, ça doit coûter cher.
Très cher, mais ça bénéficie d'aide en plus de ce que paye Arte. Ça ne pourrait pas exister sans le CNC. Et ça vaut ce coût, car ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'humour, on apprend beaucoup d'informations sur le tableau, sur son auteur ou sur le contexte de l'époque. Écoutez par exemple les dialogues des personnages du Déjeuner sur l'herbe de Manet.
Mais tu savais pas, Edouard Manet, il nous a pas en atelier. Tout est faux ici, c'est pas une vraie pomme.
Mais ben oui, mais ça se voit quand même. Regardez les arbres, ils ont pas la bonne taille. Et le petit oiseau là-bas, il vole pas. Et l'arbre en bois, c'est du plastique.
Il s'est complètement planté sur les proportions du tableau en général, en fait.
Non, mais ça c'est sûr, il s'est aussi planté sur les proportions de ton ventre, Alexandrine.
Pardon?
Ben ouais, son ventre, il est trop gros.
Il est pas du tout trop gros, son ventre. Non, mais je vous rappelle que c'était un canon au 19e siècle.
Toutes ces vidéos sont à retrouver sur le site d'Arte.tv ou sur la chaîne YouTube d'Arte. C'est très drôle et c'est fascinant. Il y a une qualité esthétique indéniable et la saison 3, elle arrivera en septembre.
Merci beaucoup, Louise Bernard. Ça vous tente, Julien Clerc?
Bon, je veux bien en voir un ou deux, voir les images.
Alors, je vais vous dire, si vous envoyez un ou deux, vous allez voir les 60, parce que c'est absolument formidable.
Alors, je vous fais confiance.
Je ne peux pas dire mieux. Merci beaucoup, Louise Bernard.
Avec plaisir.
Julien Clerc, reste avec nous. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Julien Clerc, avec nous, on parle de son nouvel album Terrien. Terrien comme quelqu'un qui habiterait la Terre. Vous habitez un petit peu partout. Vous avez habité pendant 5 ans en Angleterre. Et étrange écho, Julien, à votre départ d'Angleterre. Sur cet album, il y a une chanson intitulée Brexit. On va entendre un extrait.
Elle voit passer les ferry boats avec une mélancolie douce. Elle les voit caresser ses côtes les matins d'été à Portsmouth. C'est juste un chagrin élégant, avoir des larmes à l'intérieur, mais garder la soie et les gants, boire un thé sous un saule pleureur. La tristesse aristocratique, c'est avoir le cœur insulaire, et c'est être un peu britannique, c'est pleurer sans en avoir l'air. La tristesse.
Parole de Paul École, Brexit. Ouais. Là, c'est vous qui lui avez soufflé l'idée. Non, de lui-même, tout, il s'est dit tiens, Julien quitte l'Angleterre pour la France, je vais faire le Brexit.
Ah oui, bien sûr. Oui. C'est un joli texte. Hein. C'est un texte très, je dirais, très. Très joli, un peu drôle, très malin, parce que ça raconte finalement ça raconte le Brexit à travers une histoire d'amour qui a pris fin, quoi. Donc c'est une bonne idée de chanson, je trouve.
Et puis avec le double sens sur les côtes et
oui,
les côtes.
Oui, bien sûr.
Au passage, ça s'entend sur tout l'album et ça s'est entendu sur le live. Vous montez vraiment très très haut. Ouais. Dans les aigus, donc compliment. Ouais. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'audition. La voix, vous l'entretenez toujours,
hein? Ah oui, beaucoup. Surtout quand je ne chante pas. Quand je ne suis pas en concert, bien sûr. Pour ne pas avoir des mauvaises surprises quand je reprendrai mes charges de travail sur scène.
Vous prenez vraiment des cours de chant deux fois par semaine?
Oui, bien sûr.
J'allais dire comme un débutant, mais peut-être pas les débutants.
Non, c'est
peut-être
pas
que
les
la
débutants.
Calas, elle chantait
savez,
tout le temps.
Vous savez, je réponds un peu toujours la même chose et je m'en excuse.
Allez-y.
Est-ce que vous ne pensez pas que Roger Federer travaille tous les jours avec son coach
tout le temps.
Les pianistes ne font pas leur gamme tous les jours? Est-ce que les chanteurs d'opéra qui travaillent beaucoup plus que nous
Non, je veux dire, ce qui m'étonne, c'est pas de chanter tous les jours, c'est de prendre des cours de chant. Qu'est-ce que Julien Clerc a encore à apprendre au niveau du chant?
Tout, parce que le physique évolue, et puis vous savez, les cours de chant, c'est une connaissance de soi-même aussi. Ça n'est pas que de la technique, c'est aussi mental, les cours de chant. C'est un peu une espèce de yoga, si vous voulez. Voilà.
Je vais sortir un dossier. En préparant cette émission, j'ai retrouvé des interviews anciennes. J'ai retrouvé ce que vous avez dit un jour, votre agent Bertrand Delabaye, au sujet de la voix et de la cocaïne, vous vous souvenez?
Oui. En l'occurrence, il avait raison à l'époque.
Il avait dit, votre capital, c'est votre voix. Ouais. Si vous continuez comme cela, vous n'en aurez plus.
Oui, bien sûr. C'est arrivé, malheureusement, à quelques très très grands chanteurs.
Ouais. Compris un peu de cocaïne. Chose qui m'a fait aussi sourire, vous avez composé cet album chez vos beaux-parents, les parents de votre épouse, la romance.
On a fait une partie de l'album.
Hélène Grémillon, ils ont dit quoi, les beaux-parents, quand ils ont vu débarquer le gendre avec un piano?
Je pense qu'ils ont été très reconnaissants que j'ai un piano sous le bras,
ouais.
Parce que si j'avais dû travailler sur le piano qui est dans la pièce principale de leur maison, que j'y avais mis d'ailleurs, ouais. C'est un piano qui a fait plein de tournées et qui prend une retraite bien méritée dans cette jolie maison, je leur aurais cassé les oreilles tous les jours. Donc,
là, c'est un piano électronique, on peut mettre un casque.
Oui, avec mon casque, comme ça, je travaillais dans ma chambre et je gênais personne.
Fin décembre, la tournée. En espérant que ça se fasse, que bon, fin décembre, le Covid est disparu.
Bien sûr.
130 concerts prévus, tant que ça.
Oh, je ne sais même pas, là, on dit une
dans
date
match,
comme ça.
Dans Match, vous avez
ça,
dit 130.
Je sais, mais je pense qu'il y en aura peut-être plus, vous savez.
Oh.
J'essaie toujours, quand je fais des tournées, de pouvoir décliner mon spectacle avec différentes...
configurations.
Bon, je pense qu'il y aura la configuration pour les grandes salles. Mais après, quand on passera dans les petites salles, et on a la chance, en France, d'avoir un réseau de petites salles extraordinaires, de trucs culturels, etc., on peut chanter, si on veut, tout le temps. Donc là, je serai à un ou deux, maximum trois sur scène.
Un piano-voix. Ah, non, parce que j'allais dire
un piano-voix.
C'est ce qu'on
a fait tout à l'heure. Ouais. Voilà ce que vous avez entendu tout à l'heure. Je dois pouvoir faire mon tour de chant dans des salles de 7000 ou des salles de 700.
Sans tous les cuivres. Merci beaucoup, Julien Clerc. C'est aussi là qu'on voit le talent, quand les chansons tiennent debout toutes seules. Je le rappelle, ce nouvel album, Terrien, le label, je ne l'ai pas cité, Play Too. Merci d'avoir été avec nous, Julien Clerc. Demain, Culture Média, évidemment, à 9h, on va fêter un anniversaire. Ce sont les 30 ans de l'émission culte de science sur la 6, E égale M6. Nous serons avec, évidemment, l'animateur emblématique, qui d'autre, Mac Lesguy, et puis la journaliste et autrice Lorraine Bastide. Elle signe la postface de l'édition féministe du Scum Manifesto de Valérie Solanas. Vous vous souvenez qui était Valérie Solanas? C'est cette femme qui avait tiré sur Andy Warhol.
Ah d'accord.
Et ben voilà. Elle a fait un manifeste féministe qui revient à la mode, et on en parle demain, juste après le flash. C'est Anne Romanoff. Ça fait du bien, c'est le nom de l'émission. Donc je vous dis à demain. Bonne journée sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.